Vous êtes sur RTL. RTL Grand Soir.
Christophe Paco.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour RTL Grand Soir. C'est votre rendez-vous avec l'actualité de votre journée à tête reposée. Avec à la une ce soir, le retour à la maison de l'ambassadeur français à Rome. Après une longue série de déclarations et d'attaques à distance des dirigeants italiens envers la France, c'est une première depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Comment en sommes-nous arrivés là? Dossier complet ce soir dans RTL Grand Soir, avec comme grand témoin d'ici 10 minutes maintenant, sur la première année de France, l'ancien président du Conseil italien, Matteo Renzi. Les suites de l'affaire Benalla avec une première démission, celle de la chef du groupe de sécurité du Premier ministre, pour ne pas l'exposer justement dans le cadre de ce dossier. Cette dame et son compagnon également, un militaire, vient d'être suspendu. Football, dernier match pour une place en quart de finale de la Coupe de France. Guingamp-Lyon fait le point avec vous, Philippe Audouin.
Et c'est Lyon qui mène à la mi-temps 1-0 avec un but de Moussa Dembélé dès la 7e minute.
La météo, ce sera doux et pluvieux. 22h20, votre magazine de l'écho. On parlera cyberachat et transport de palettes avant, comme chaque soir, de retrouver Caroline Dublanche pour Parlons-nous. Plus que jamais, vous êtes bien sur la première radio de France.
RTL Grand Soir.
Christophe Paco.
Ciao Rome, retour à la casa, retour à la maison pour l'ambassadeur français en Italie pour des consultations selon le terme consacré. Après, je cite, une série de déclarations outrancières et d'attaques sans précédent. La toute dernière en date, la rencontre entre le vice-premier ministre italien il y a 48 heures et des gilets jaunes en France. La provocation de trop, visiblement, Béatrice Adjadj.
Oui, et puis du jamais vu depuis la fin de la guerre en 45, les responsables français reprochent à Luigi Di Maio d'avoir franchi la ligne rouge. Di Maio n'est pas n'importe qui, c'est le vice-président du Conseil en Italie. Or, explique un diplomate, il est venu en France se mettre en scène avec Christophe Chalençon, pas n'importe qui non plus. Chalençon, gilet jaune, qui a appelé à l'insurrection contre le pouvoir, qui appelle à mettre un général à Matignon. Bref, selon le Quai d'Orsay, il est inacceptable qu'un dirigeant étranger vienne sur le sol français soutenir un homme qui tient de tels propos anti-républicains.
Et la crise, Béatrice, couvait quand même depuis un petit moment, depuis l'été 2018.
Oui, depuis que cette coalition anti-système populiste est arrivée au pouvoir en Italie, Emmanuel Macron a critiqué dès juin, je le cite, « la lèpre qui monte » pour stigmatiser ce nouveau gouvernement italien qui refusait d'accueillir les migrants de l'Aquarius. En réponse, le ministre populiste italien Salvini s'est moqué, je cite, de l'arrogant Macron qui donne des leçons mais n'ouvre pas ses ports aux migrants. La ministre Nathalie Loiseau avait fini par répondre que la France n'allait pas jouer au concours du plus bête. Et le rappel de l'ambassadeur de France signifie cette fois-ci que trop, c'est trop. Luigi Di Maio et Matteo Salvini vont-ils le comprendre? Ce soir, les deux hommes se disent prêts au dialogue.
Merci à vous, hein, Béatrice Adjadj, service étranger d'RTL. Je vous rappelle qu'à la fin de ce journal, nous recevrons l'ancien président du Conseil italien, il y a encore 2 ans, Matteo Renzi. Le Brexit suite, aucune avancée aujourd'hui après la rencontre entre Theresa May et le président du Conseil européen Donald Tusk, mais un brin d'optimisme tout de même dans les propos de la première ministre britannique qui promet que le Brexit aura lieu dans les temps, à savoir, on le rappelle, le 29 mars, date prévue pour dire bye bye à l'Europe.
RTL Grand Soir.
Avec Christophe Paco.
Première victime collatérale dans le cadre du feuilleton à rebondissement de l'affaire Benalla, la chef de cabinet de la sécurité du bureau du Premier ministre, la commissaire Marie-Élodie Poitou, qui a préféré démissionner pour ne pas exposer Vincent Derosier, Édouard Philippe dans ce dossier, éviter ainsi toute polémique.
Oui, et un conseiller confie ce soir que ce n'est en aucun cas une sanction contre Marie-Élodie Poitou, la chef du groupe de sécurité du Premier ministre. Édouard Philippe salue d'ailleurs au passage son professionnalisme. L'entretien, lui, s'est déroulé aujourd'hui à Matignon. La chef du GSPM a maintenu devant le Premier ministre l'intégralité des propos qu'elle a tenus depuis la semaine dernière. C'est-à-dire qu'elle nie toujours être à l'origine d'une rencontre entre Vincent Crase et Alexandre Benalla fin juillet à son domicile et avec son compagnon. Elle dément également avoir fait l'enregistrement révélé par Mediapart dans lequel Alexandre Benalla se vante d'avoir le soutien du président. Si elle choisit de démissionner, c'est donc, vous l'avez dit, pour éviter toute polémique. Consciente, dit-elle, de la sensibilité de sa fonction. Je vous rappelle qu'elle dirigeait un service entier. Elle était de tous les gros déplacements du Premier ministre, notamment à l'étranger. C'est donc un poste clé. Elle a demandé à Édouard Philippe d'être affecté à une autre mission au ministère de l'Intérieur. Il a dit oui. Et Matignon espère, avec ce départ, éteindre l'incendie qui touche Matignon pour la première fois depuis le début de l'affaire.
Oui, merci Vincent Derosier. On vient de l'apprendre. Hein, le compagnon, en tout cas, de Marie-Élodie Poitou, cette commissaire, cette collaboratrice chef de cabinet de la sécurité du bureau du Premier ministre, et bien son compagnon, ami militaire, a été, on vient de l'apprendre, suspendu ce soir par le ministère des Armées. Et puis toujours dans ce dossier, le parquet national financier a ouvert une enquête pour corruption sur le contrat de sécurité signé entre la société de Vincent Crase et un oligarque russe, confirmant ainsi une information de nos confrères du site Mediapart, contrat qui aurait été négocié par Alexandre Benalla du temps où il était à l'Élysée. Et puis nouvelle perquisition ce matin chez les Insoumis, pour être précis, à Toulouse, 5 heures de perquisition domicile de Manuel Bompard, numéro 2 de la liste d'opposition aux européennes, présidé bien sûr par Jean-Luc Mélenchon, excédé lui par ses nouvelles recherches et qui dénonce ce soir l'instrumentalisation de la justice sous Emmanuel Macron. Le président, justement, s'en est allé aujourd'hui, manche retroussée, à la rencontre de jeunes en Saône-et-Loire dans le cadre du grand débat national. Des témoignages très forts, vous allez l'entendre. On a parlé d'harcèlement, d'audisme et beaucoup de choses concernant évidemment tous ces jeunes, réunion autour du président. Rendez-vous en tout cas d'importance pour Emmanuel Macron ce soir, un président très à l'écoute. Sur place à Autun, Olivier Bost.
Oui, au milieu d'un millier de personnes, sous les projecteurs, en direct devant les caméras et face au chef de l'État, plusieurs jeunes se sont confiés, des moments d'une intense émotion, pour parler de leurs difficultés, de leur dyslexie ou d'autisme.
Et je voudrais parler de ça parce qu'il y en a beaucoup en fait qui sont exclus, moqués et stigmatisés. Faites remonter l'info comme quoi ne plus utiliser les autistes comme insulte. Parce que François Fillon, à un moment, il a utilisé l'autisme en disant « on n'est pas des autistes ». Alors s'il vous plaît, hein, on arrête maintenant.
Et puis, à trois reprises, d'autres jeunes vont parler du harcèlement dont ils ont été victimes pendant leur scolarité.
Monsieur le Président, vous disiez que les personnes qui étaient harcelées devaient en parler. Mais pour avoir vécu le harcèlement pendant de nombreuses années, en avoir parlé, ça n'a pas fait bouger les choses. Les responsables des établissements dans lesquels je me trouvais, je trouvais qu'ils ne faisaient rien.
Et à l'école, vous vous êtes senti seul ?
Oui, bah heureusement que j'avais mon frère.
Et du coup, comment vous avez réussi à passer ce cap ?
Bah, j'ai attendu.
Ces témoignages l'ont largement emporté sur le débat. On a plus entendu une génération se dévoiler devant le chef de l'État.
Vous avez eu le courage de parler de vous, et du coup de parler de choses dans la société qu'on n'ose plus nommer. Vous m'avez rendu formidablement fier d'être président de la République française cet après-midi. Merci.
Reportage d'Olivier Bost à Autun pour la Première Radio de France. Et puis une menace prise très au sérieux dans plusieurs villes des Hauts-de-France, comme Douai, Valenciennes, Dunkerque ou encore Lens, où la SNCF envisage tout simplement de supprimer ses dessertes TGV dans ses gares pour privilégier les grands pôles de Lille et d'Arras. Dès la fin d'année, ça rappelle un peu le dernier film quand même des Tuches, mais là, cette fois-ci, on ne rigole plus. De nombreux usagers qui travaillent dans la capitale et qui vivent dans le Nord s'inquiètent à juste titre donc de voir leur trajet se rallonger sensiblement, comme à Douai où le maire a manifesté cet après-midi au bord des rails pour défendre ses TGV et sa gare, en immersion pour RTL Grand Soir, Franck Hanson.
7 fois par jour, ces TGV s'arrêtent en gare à Douai, une liaison devenue indispensable pour la cité nordiste, ville universitaire avec sa cour d'assises, et le maire Frédéric Chéreau refuse de voir disparaître ces trains.
Clairement, si on nous enlève des dessertes vers Paris, ce sont des personnes qui vont arbitrer en défaveur de Douai, qui iront s'installer ailleurs, qui diront « si j'ai pas le TGV, c'est fini, je ne vais pas vivre dans cette ville ». C'est un élément d'attractivité très fort, ça encourage aussi des cadres, des chefs d'entreprise à choisir de s'installer à Douai. C'est pas une solution de dire à tout le monde « on concentre tout dans les métropoles, et qu'est-ce qui se passe dans le reste du territoire ?»
Sur lesquels les usagers ne cachent pas non plus inquiétude et agacement.
Pourquoi enlever un TGV qui marche ? Une heure pour aller à Paris, vous rendez compte ?
Qu'ils assurent des liaisons en TER avec des correspondances courtes, ça peut encore se faire quoi. Maintenant, il faut défendre nos acquis. Ils sont assez complets, quoi.
On nous parle de mobilité, d'écologie, etc. Mais on va être obligé de prendre la voiture pour se diriger vers des gares de plus grande envergure. Et ça nous engendre des coûts supplémentaires, encore une fois. Et on a besoin du TGV à Douai.
La SNCF doit rencontrer les élus de la région concernée à partir de la mi-février pour évoquer l'évolution de cette desserte. Des changements qui ne se feront pas sans heurts.
Ouais, le reportage de Franck Hanson dans les Hauts-de-France.
RTL Grand Soir.
Entendu comme témoin auprès des Medine Mouche, jugé pour l'attentat du musée juif de Bruxelles, le journaliste Nicolas Hénin a reconnu en l'accusé son geôlier lorsqu'il était retenu en Syrie avec d'autres confrères. L'ancien otage, très éprouvé après son audition.
Ça faisait plus de 5 ans que je n'avais pas vu Medine Mouche, et il m'a semblé tel que je l'avais connu. À plusieurs reprises, nos regards se sont croisés. Il a eu un petit regard, un petit air narquois. Ce que je retiens en particulier, c'est ce moment où il a pas pu réprimer, en fait, son sourire. Quand on lui a raconté la façon dont il se présentait lorsqu'il venait nous voir en disant « Ah, mon petit Didier », pour s'adresser à Didier François. Et ça, ça l'a fait vraiment rigoler. Et à ce moment-là, en fait, eh bien, il s'est trahi lui-même. Et le visage qui restait impassible depuis le début du procès, eh bien, ce visage a parlé pour lui. Et à titre personnel, je dois dire que c'est particulièrement éprouvant d'avoir eu à raconter encore une fois ces violences sur lesquelles j'étais resté assez pudique jusqu'à présent.
Nicolas Hénin avec Guillaume Chiez à Bruxelles. En France, le procès de l'ancien député séducteur Denis Baupin. Cécile Duflot, l'ancienne ministre en pleurs ce matin, revenue sur le harcèlement subi de la part de son collègue d'Europe Écologie Les Verts. Son épouse, elle, Emmanuelle Cosse, a pris tout simplement la défense de son mari. La garde à vue de l'incendiaire présumé de l'immeuble de la rue Erlanger à Paris, dans la nuit de lundi à mardi dernier, eh bien, la garde à vue a repris cet après-midi après un long examen psychiatrique. Cet incendie criminel, on le rappelle, a causé la mort de 10 personnes. Et puis on a appris aujourd'hui le décès du journaliste de sport Jacques Ferrand à 98 ans. Il était l'une des grandes signatures du journal de l'Équipe et co-créateur de la Coupe d'Europe de football et du Ballon d'Or. Un amoureux inconditionnel également de la Coupe de France. Ce soir, on pense à lui en ce huitième de finale. Guingamp face à Lyon, c'est le dernier huitième de finale ce soir, en tout cas de la Coupe Philippe Audouin.
Et Lyon qui mène 2-0, Christophe, désormais, puisque Cornet a doublé le score après 4 minutes en deuxième période, après le but de Dembélé dès la 7e, après 7 minutes donc en deuxième période. Lyon qui mène 2-0 à Guingamp.